Les chrétiens d'Orient persécutés, faut-il parler de génocide? Gabriel de Montmolin, le directeur des éditions protestantes Labor et Fides et ancien délégué du CICR, est l'invité de Haute Définition.
Haute Définition, Manuela Salvi.
Bonjour Gabriel de Montmolin.
Bonjour.
Les chrétiens sont persécutés, assassinés, menacés dans le tourbillon des révolutions et des guerres qui ensanglantent le Moyen-Orient et le Proche-Orient. Vous êtes directeur de Labor et Fides, une maison d'édition protestante. Est-ce que ce drame que vivent les chrétiens d'Orient vous touche personnellement ?
Il me touche bien sûr personnellement, mais comme me touche le drame général de tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Alors bien sûr qu'on se sent une affinité particulière avec les chrétiens, dont on se souvient parfois, ou dont on ne se souvient pas parfois, qu'il y en a encore qui existent au Moyen-Orient, dès lors que le christianisme est associé à l'Occident, mais la piqûre de rappel est particulièrement brutale, et quand on assiste, et quand on est témoin, puisque les médias effectivement nous offrent des spectacles épouvantables de meurtres et de décapitations, notamment de chrétiens, quand on assiste à ça, évidemment on est complètement retourné en tant que chrétien et en tant qu'être humain.
On ne peut pas rester indifférent, l'actualité est émotionnellement forte, elle entre en résonance effectivement avec l'Europe chrétienne, même s'il faut dire Europe chrétienne avec prudence. Certains parlent de silence assourdissant des églises, de silence assourdissant tout court sur ce drame qui se joue autour des chrétiens d'Orient. Vous partagez cet avis ?
Disons, le silence assourdissant des églises, je ne serais pas aussi unilatéral, parce que j'ai entendu lors de cultes ou de cérémonies religieuses déjà quand même des invitations à prier en intercession pour des chrétiens martyrisés en Orient. Donc je l'ai entendu à quelques reprises. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la voix des églises est parfois inaudible, tout simplement parce que le nombre de croyants et d'adeptes du christianisme est quand même relativement faible. C'est pour ça qu'on ne l'entend pas vraiment. Mais à l'intérieur des églises, il y a quand même une prise de conscience et quand même une forme de communion avec les drames qui se jouent.
Avec les frères d'Orient, on peut dire ça comme ça ?
Alors, évidemment, c'est un peu sélectif de dire les frères d'Orient, parce que dans un certain christianisme, je veux dire, le frère n'est pas défini forcément par sa religion, mais il est défini comme prochain, et le prochain a toutes les religions possibles et imaginables. C'est la raison pour laquelle de dire que effectivement on ne serait solidaire qu'avec des chrétiens, ou de prétendre qu'il faudrait être solidaire qu'avec des chrétiens, c'est un peu court.
Ça vous gêne, Gabriel de Montmolin ?
Ça me gêne un peu, notamment dans le contexte du Moyen-Orient, et notamment du conflit en Syrie et en Irak, dès lors qu'on entend régulièrement quand même des statistiques épouvantables relatives, par exemple, aux victimes civiles de la guerre en Syrie, parce que l'Observatoire syrien des droits de l'homme dit en mars que les civils tués lors du conflit de Syrie sont au nombre de 60 000, plus de 60 000, dont 10 000 enfants. Alors, bien sûr, à l'intérieur de ces victimes, il y a des chrétiens, mais ils ne sont pas d'abord définis par leur religion, mais d'abord par leur statut de non-combattant. Et je pense que c'est des choses très, très alarmantes sur lesquelles toute personne, et notamment les chrétiens, doivent aussi se prononcer et exprimer la compassion.
Mais vous avez, Gabriel de Montmolin, une vision très droit de l'homiste des victimes. Il ne faudrait pas leur mettre d'étiquette chrétiens, mais ils sont aussi persécutés parce qu'ils sont chrétiens. L'État islamique ne veut plus de chrétiens sur son territoire.
L'État islamique ne veut plus de personnes différentes d'une certaine catégorie de musulmans, en l'occurrence sunnites. Les cibles de l'État islamique sont multiples. Il y a bien sûr les chrétiens, mais il y a les yézidis, il y a également bien sûr les chiites. Et puis il y a comme autre cible aussi le musulman modéré européen, qui est bien sûr dans la ligne de mire des extrémistes qui souhaitent précisément faire basculer une forme d'islam dans un extrémisme plus large, peut-être en jouant sur les peurs identitaires des uns et des autres, et notamment des chrétiens. Et c'est là-dessus qu'à mon avis, il faut être un tout petit peu prudent en appelant de façon un peu sélective à exprimer une compassion uniquement à l'égard des chrétiens d'Orient.
Mais les conflits, effectivement, sont perçus en ce moment à travers des identités religieuses. La guerre civile syrienne, puis l'État islamique ont rallumé la question des chrétiens d'Orient. Certains, dont l'écrivain Jean d'Ormesson, n'hésitent pas à parler de génocide des chrétiens.
Alors c'est très compliqué d'appliquer cette terminologie précisément au conflit actuel, et je pense que c'est entrer dans des querelles sémantiques sur ces questions nous entraîne dans une espèce de comptabilité difficile. Est-ce que il faut tant de victimes pour qualifier un conflit ou des massacres de génocide?
Mais c'est l'intention qui compte quand on parle de génocide. On ne veut plus de chrétiens dans la région.
C'est-à-dire le génocide consiste précisément à éliminer physiquement des chrétiens, des juifs, des arméniens, des tutsis d'une région, mais essentiellement par le massacre. Or, il y a des formes d'intimidation orchestrées par l'État islamique, qui utilise très bien les médias pour ça, pour faire fuir des chrétiens. Il y a des millions de chrétiens qui effectivement sont des réfugiés précisément à cause de cette terreur. Alors, est-ce que c'est un génocide? Est-ce qu'il y a des crimes contre l'humanité? Est-ce qu'il y a des persécutions atroces? Je pense que délicat d'entrer dans cette logique aussi, parce que quand on parle de génocide de chrétiens, on essentialise aussi l'identité du chrétien en faisant du chrétien quelqu'un lié à un seul chrétien, et d'autant plus qu'il serait originellement chrétien, puisque au Moyen-Orient, bien sûr, on assiste à la naissance du christianisme. Et le christianisme, c'est quelque chose de beaucoup plus universel. C'est une religion...
Vous êtes bien protestant, Gabriel de Montmollin.
J'assume tout à fait ce protestantisme, mais au départ du christianisme, il y a cette volonté à un moment donné, avec l'apôtre Paul notamment, d'étendre l'identité chrétienne au monde universel et non plus seulement au monde juif, et notamment sur des valeurs et sur des relations personnelles et individuelles à Dieu. Donc c'est quand même un des ADN de ce christianisme-là, et appelé précisément à qualifier l'horrible persécution des chrétiens de génocide, ça en fait applique au christianisme une notion identitaire quasi tribale qui, à mon avis, fait le jeu aussi de ceux qui considèrent que tout ce qui se passe est une guerre de civilisation. On entre dans une logique qui n'est pas loin d'être celle qui habite ceux qui veulent établir un califat en dehors des frontières politiques qui ont été décidées au XXe siècle.
Donc si on suit votre raisonnement, Gabriel de Montmollin, ces victimes chrétiennes ne le sont pas parce qu'elles sont chrétiennes, mais parce qu'elles sont liées à un Occident chrétien ?
Alors c'est évident que les musulmans qui effectivement persécutent les chrétiens considèrent que le christianisme est fatalement la cinquième colonne de l'Occident, et notamment des États-Unis. Mais c'est précisément la contre qu'il faut s'insurger, en disant que la persécution des chrétiens d'Orient, c'est aussi la persécution d'une certaine idée de la religion, d'une certaine idée de la religion liée quand même à des rapports interpersonnels qui ne sont pas dictés par la race, l'ethnie, la richesse ou la religion, mais par le statut d'être humain qui n'a pas d'autres qualifications supérieures parce qu'il serait de telle ou telle religion.
Aujourd'hui, le cocktail est explosif. Hein, dans la région, c'est une mosaïque de cultures et de religions. C'est là, on le disait, hein, que sont nées les religions du livre, berceau du christianisme. Pour vous, Gabriel de Montmollin, ce n'est pas un problème si les chrétiens d'Orient finissent par disparaître, par être complètement éradiqués?
Ce qui est un vrai problème, c'est l'abandon de toute diversité religieuse, culturelle, dans un pays donné, et l'orientation générale vers des sociétés ou des pays complètement monolithiques dans lesquels la diversité n'existe plus.
Donc vous insistez sur la liberté de culte et la liberté de croyance.
Absolument. Et donc il est évident que, traduit dans des définitions chrétiennes, bien sûr que des chrétiens passent, on le dit par exemple en Irak, d'un million de ressortissants avant la guerre en Irak à 300 000 aujourd'hui. C'est bien sûr un drame absolu, c'est un drame, mais essentiellement par rapport à ce que ça suscite comme tragédie humaine individuelle chez des personnes qui ont dû quitter leur territoire. Maintenant, de dire c'est tragique pour le christianisme en tant que tel, ça affaiblit la cause d'une religion, j'irai pas jusque-là, parce que encore une fois, le christianisme est une religion qui traverse et transcende les territoires et les nationalismes.
Donc il n'a pas besoin de racines dans le lieu où elle est née.
Le christianisme a besoin d'une incarnation. Parce que il faut éviter aussi que la religion soit trop cérébrale, et puis il faut l'incarner aussi dans des institutions, dans des cultures.
Là, vous devenez très catholique.
Non, parce que le protestantisme aussi, ou le christianisme d'inspiration protestante, a toujours milité aussi pour le fait qu'il y ait des traductions, je veux dire, politiques, institutionnelles, culturelles, que ce soit dans des liturgies, que ce soit dans des rituels, que ce soit dans des bâtiments aussi, ou dans des réalisations. Or, précisément, l'éradication des chrétiens d'Orient, effectivement, appauvrit considérablement cette possibilité d'incarnation.
Alors, cette persécution a des enjeux religieux, ils sont aussi politiques. On se souvient en 2008, lorsque les chrétiens d'Irak étaient persécutés, Bernard Kouchner voulait les accueillir en France. L'évêque de Lourdes a appelé maintenant à accueillir plus de chrétiens.
Il y a un effet pervers, à mon avis, à induire ou pousser les pays occidentaux à se prononcer et accueillir surtout des chrétiens, parce que ça accrédite un peu l'idée implicitement au fond, il y a deux catégories d'êtres humains. Il y a les chrétiens et, de l'autre côté, les musulmans, mais même les musulmans modérés. Et je pense qu'aujourd'hui, de se focaliser sur l'identité chrétienne des personnes qu'on doit accueillir, en essentialisant, au fond, nos indignations en direction uniquement des chrétiens, on met, en fait, en difficulté des musulmans modérés qui vivent ici, au risque de les faire basculer, peut-être, par désespoir, dans un extrémisme qui les conduirait peut-être à se rapprocher d'une religion plus identitaire et plus conservatrice.
Et plus radicale, on vous comprend bien, Gabriel de Montmolin, mais parfois les chancelleries parlent de victimes en tant que ressortissants égyptiens ou syriens, parce qu'en Égypte, les Coptes sont aussi pourchassés. Au fond, ne pas les nommer, n'est-ce pas aussi une incompréhension du fait religieux? On le disait tout à l'heure, il y a bien une région, le Moyen-Orient, le Proche-Orient, qui est redessinée selon les lignes confessionnelles, et le fait religieux est important.
Alors, elle est redessinée par des logiques d'affrontement et de guerre, mais selon des logiques qui ne doivent pas être celles des États démocratiques, qui doivent précisément lutter contre cette redéfinition. Et je pense qu'il y a un fatalisme à considérer que les choses sont inéluctables et qu'à terme, on aura un endroit avec des sunnites, un autre avec des chiites et un autre avec des kurdes. Et qu'au contraire, on doit lutter de toutes nos forces pour la préservation d'un miracle de coexistence, même si absolument aucun signe aujourd'hui nous donne des espérances de ce type. Donc, ne pas anonymiser, je veux dire, les victimes, c'est un fait. Exprimer notre compassion et notre soutien à des figures chrétiennes qui sont martyrisées, c'est évident, et autant le faire aussi via des églises, via des prises de position, mais on ne peut pas le faire de façon unilatérale en oubliant tous ceux qui sont persécutés parce qu'ils sont dans une position qui n'est pas celle soit de l'État islamique, soit de système religieux extrêmement conservateur.
Donc l'enjeu serait plus politique que religieux, et ce sont les effondrements des États-nations dans la région qui ont mis les minorités chrétiennes, mais minorités, en difficulté.
Bien sûr, enjeu politique qui oblige à ne pas jeter de l'huile sur le feu des identités religieuses, en gardant à l'esprit que, en tout cas, dans une forme de christianisme européen et occidental, il y a la nécessité de séparer le politique du religieux, ce qui, précisément, met toutes sortes de religieux conservateurs sur les pattes de derrière. Mais je crois que c'est un principe, c'est un ADN, c'est un logiciel qu'il faut impérativement rappeler et mettre en situation d'être remis en action. Et je pense que, précisément, la dénonciation du martyr unique des chrétiens va un tout petit peu dans le sens d'une sous-estimation de cet ADN originel.
Vous êtes encore directeur de la Borée de Fides, Gabriel de Montmolin. Un auteur vient vous proposer un manifeste pour la défense des chrétiens d'Orient. Vous publiez ?
Je le publie volontiers. D'abord, je le lis pour savoir effectivement quelles sont les raisons qui motivent ce manifeste. Je le publie volontiers, mais je fais en sorte de publier en même temps un manifeste qui défendrait toute population martyrisée pour ses opinions personnelles ou pour ses habitudes de vie par un groupe qui veut réaliser le fantasme d'un État pur, sans différence.
Vous allez quitter la direction de la Borée de Fides avec sérénité, Gabriel de Montmolin ?
avec un petit pincement au cœur, mais avec la sérénité d'avoir vécu plus de 20 ans dans une maison d'édition qui m'a permis d'être au carrefour de toutes sortes de débats, d'idées et d'auteurs magnifiques que j'ai eu beaucoup de plaisir à éditer. Et donc, avec une sérénité relative, dès lors que, eh bien, je me lance dans l'aventure de, voilà, solliciter des mandats, de me mettre à mon compte pour continuer à travailler dans le domaine culturel, dans le domaine du livre et dans la culture.
Merci, Gabriel de Montmolin.